Ce matin, nous avons la chance d'entendre Béatrice Dufour qui va nous parler de ce que nous avons un peu reçu à la louange. À la louange, nous avons reçu que nous étions des perles pour Jésus, mais je pense qu'il va nous inviter à aller même plus loin. Il aimerait bien que nous devenions ses amis. Donc le titre de l'enseignement de ce matin, c'est « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». Entrer dans l'amitié et les sentiments du Christ. Alors, Béatrice Dufour est française, mariée avec Yves. Ils habitent la Drôme en France, il fait bien chaud, près des foyers de charité où Marthe Robin a vécu à Châteauneuf-de-Galore. Ils sont parents de 6 enfants, dont 3 adoptés aux divers handicaps. Alors, ils sont membres de la communauté d'Emmanuel depuis 33 ans et Béatrice anime de nombreuses retraites sur la vocation de la femme en France et à l'étranger. Et Yves, lui, est éleveur d'abeilles.
Bien. Alors, bonjour à tous. Effectivement, j'entends les autres prédicateurs dire « Oh là, c'est compliqué de faire chaque fois le tour pour garder le public dans notre regard ». Alors voilà, moi j'arrive après 3 grands prédicateurs et chacun avait eu l'humilité de dire qu'ils étaient impressionnés par le prédicateur précédent. Alors, alors que dire de moi? Alors en plus, ce que nous a pas dit notre sœur Catherine, c'est que nous habitons à un lieu dit rien. Donc je suis une femme de rien. J'espère que ça va vous décomplexer. Voilà. Alors, ce lieu que le Seigneur a choisi pour nous faire vivre, on est parti d'une ville. Nous habitions dans une petite ville. J'avais dit à mon mari, pas moins de 30 000 habitants. Hein, moi, j'étais une citadine. Et puis, je me suis retrouvée au lieu dit rien, en pleine campagne, où les premières maisons sont à plusieurs kilomètres. Voilà, ce lieu dit rien, mais c'est pas pour rien, je pense, que nous sommes là, parce que le Seigneur est venu nous révéler profondément ce qu'il y a de fou dans le monde, c'est ce que le Seigneur a choisi, hein, ce qu'il y a de faible dans le monde pour confondre les sages. Voilà. Alors, le Seigneur nous invite donc chacun, au milieu de cette session maintenant, vraiment de passer de l'état de serviteur, qui est déjà très beau, hein, de se mettre au service du Seigneur, de faire des choses pour lui, à celui tellement plus tendre d'ami. Hein. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Voilà. Alors pour moi, en fait, je suis une bonne descendante de Ève, fille d'Ève, et donc j'ai cherché à le bonheur, comme tout le monde, mais j'ai capté le bonheur, j'ai voulu capter le bonheur au lieu d'apprendre à le recevoir, comme Marie, et cela m'a joué bien des tours. Je me suis fait mon plan de bonheur, je me suis dit que si je voulais tirer le meilleur parti de ma vie, il fallait que je prenne les choses en main. Ça, c'est très féminin. Nous avons travaillé là-dessus, nous, les femmes. Voilà. C'est ce que j'ai fait pendant quelques années. Et vous savez que nos histoires, toutes nos histoires saintes vont se broder sur nos blessures. On l'a vu avec les prédicateurs précédents, hein, qui nous ont raconté chacun un peu leurs blessures. On en a tous. Et ma foi, il ne faut pas s'en désespérer. Il faut dire que toutes ces blessures sont vraiment ce qui va faire notre histoire sainte. C'est ce qui va faire notre histoire unique, singulière, pour toute l'éternité. Nous serons liés par cette histoire, par ces blessures, parce que ces blessures, évidemment, elles vont être visitées par Dieu, et c'est ce qui fera toute notre joie pour l'éternité, toute cette histoire d'amour qui s'est tissée à partir de nos blessures. Alors, la mienne de blessure remonte à ma conception. Ça a été évoqué par Yves Boulevin, je crois. Voilà, pour moi, ma maman voulait être très généreuse, une femme du Nord, généreuse. Elle voulait 10 enfants, mais elle voulait 10 garçons. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle avait contre les filles. Et alors, je suis arrivée la 5e fille, avec 11 mois de différence seulement avec ma sœur. Et donc, ça a été une grande déception, c'est bien qu'elle ne s'est pas intéressée à moi du tout. Et j'ai rejeté tous les biberons. À 3 mois, j'avais toujours pas rattrapé mon poids de naissance. Et à 6 mois, comme ma mère n'en pouvait plus de cet enfant qui rejetait toujours tout, mon père a pensé lui offrir des vacances à la mer et laisser les petites à la nounou. Et là, je me suis laissée mourir. Alors, on a rappelé mes parents en urgence, j'étais hospitalisée, on ne savait pas de quoi m'opérer, mais on dit comment sauver cet enfant. Et en fait, ma mère a commencé à m'aimer à partir du moment où elle a vraiment eu peur de me perdre. Hein. Et voilà, l'instinct maternel est ressorti à ce moment-là. Et après, j'ai commencé à digérer mes biberons. Mais ça a laissé évidemment des séquelles très profondes. C'est-à-dire que j'ai joué le rôle d'un garçon manqué pour faire plaisir à ma mère, alors que je ne vivais qu'avec des filles. Et donc je me croyais obligée de commander à Noël des mécanos, des petites voitures, et je me frustrais de tout un tas de choses et que je voyais que mes sœurs avaient. Et voilà. Donc j'ai fait ça pendant un bon moment, mais j'étais aimée de ma maman comme ça, elle me présentait toujours comme ça, voilà mon garçon manqué. Voilà, jusqu'au moment où je passe quand même rapidement à un homme avec un regard très pur, qui a su regarder au-delà des apparences. Un homme m'a aimé dans ma féminité, qui n'avait plus beaucoup d'extériorisation. Et cet homme, c'est lui qui est derrière moi, et qui m'a vraiment reconnue comme son épouse et qui m'a désirée vraiment comme la mère de ses enfants, qui m'a aimée comme la future mère de ses enfants. Alors nous nous sommes mariés et nous avons eu une première fille, Emmanuel, sans trop de problèmes. Donc ça a été une exultation, une joie extraordinaire, commencement de guérison pour moi aussi dans ma féminité. Et puis 2 ans plus tard, un pépin, je suis hospitalisée en urgence. On ne savait pas ce que j'avais, mais c'était un grand ponte à Lyon qui m'a examinée et qui m'a dit: madame, j'aime autant vous prévenir de suite, vous ne pourrez plus avoir d'enfant. Voilà. Alors cette parole, elle est venue m'étrangler complètement. Moi aussi, je voulais une famille nombreuse, peut-être pas 10, mais au moins 7. Et là, voilà, les plans qui sont contrecarrés, hein, nos beaux, jolis petits plans de bonheur. Et le médecin, en fait, m'a opéré. Je n'avais qu'une grossesse extra-utérine, donc je pouvais avoir, il me restait une trompe, j'avais une grosse hémorragie interne, mais on avait sauvé une trompe. Donc j'aurais pu avoir des enfants, mais la blessure plus forte, hein, est venu tout bloquer en moi et je n'ai plus de cycle pendant 10 ans. Donc une aménorrhée, terme technique, une aménorrhée totale. Voilà. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on cherche le bonheur quand même, envers et contre tout. Je mets bouchée double pour chercher ce bonheur à travers toutes sortes de choses, de thérapies, de médicaments, de clubs, d'endroits où je pouvais aller, où on nous promettait mille et une choses pour être heureux. Et nous avons ouvert beaucoup de portes, on en a fermé autant qu'on en a ouvert. Alors, hors des quatre bandes, au départ, on est allé dans l'église, on a fait tous les mouvements de l'église, mais à l'époque, nous étions très marqués par mai 68, et donc, on ne trouvait plus dans l'église de gens qui priaient un Dieu vivant, et tout était un peu intellectualisé, et on a perdu la foi. Et donc, quand on a pu le sacré, on va le chercher ailleurs, et on est allé le chercher dans des voies, ni fait ni à faire, dont a parlé Jacques Verlin au début, dans l'anthroposophie, parce que c'est de l'agriculture, l'agriculture biodynamique, puis après on nous a dit, il y a des stages, on va à ces stages, et puis voilà. Et on est embarqué dans des choses un peu ésotériques, un peu. Voilà. Alors, un jour mon mari me dit: écoute, ça suffit, Béatrice, on avait fait mille et une choses, et chaque fois on était toujours déçus, et il me dit: la vérité, elle est dans l'évangile. Et je lui dis: oui, mon petit, mais on ne le voit pas vivre. Alors, j'ai quand même été chercher un semainier. Et dans ce semainier, on a pris la prière du jour. On était le 23 décembre. Donc, c'était l'Annonciation. Yves lit le texte de l'Annonciation. Et moi, simplement, je répète à la fin: et que tout se passe pour moi selon ta parole. Je n'ai pas dit je suis la servante du Seigneur, j'en étais incapable. Mais j'ai dit que tout se passe, mais je ne sais pas pourquoi je disais ça. Et dans la nuit, je suis réveillée par une douleur dans le bas-ventre. Et en fait, au petit matin, voilà, constater le miracle, c'est que mon cycle que je n'avais plus depuis 10 ans était revenu. Voilà. Alors ça, c'était le début d'une guérison. J'étais sûre que Dieu me guérissait. Donc je m'étais toujours dit qu'il m'avait fabriqué et que ça ne devait pas être bien compliqué pour lui de me guérir. Mais est-ce que ça allait être son plan? Ça, j'en savais rien. Voilà. Alors, le Seigneur voulait m'amener beaucoup plus loin. Comprenez qu'une guérison physique, avoir un enfant ou pas d'enfant, ce n'est pas ça qui va changer notre vie. Ce qui va changer notre vie, c'est cette rencontre intime. Hein? Je ne vous appelle plus serviteur, mes amis. Et c'est à cela qu'il voulait m'amener. Donc, il a fallu encore 6 mois de haut et de bas. J'ai même fait une petite dépression entre deux parce que je ne voyais plus. On avait accueilli beaucoup. On était généreux de nature, donc on avait accueilli pas mal de paumés chez nous. On avait adopté également 3 enfants avec des handicaps. Donc, voilà, on avait une nature généreuse, mais on n'était toujours pas heureux. Hein? Et donc, le Seigneur voulait m'emmener plus loin. Et nous nous sommes retrouvés, je passe quelques détails, nous nous sommes retrouvés à Paray-le-Monial, cette ville dont vous entendez parler depuis quelques jours, où Jésus est apparu à Sainte Marguerite-Marie au XVIIe siècle, en lui montrant son cœur, hein, pas un cœur d'or, mais un cœur brûlant de charité. Et il a offert cet amour à Marguerite-Marie en lui demandant d'être l'héritière des trésors de son cœur. Alors nous arrivons là et nous sommes bouleversés de retrouver une église, enfin, animée du dedans. Animée par des gens qui nous paraissaient, ça y est, on a dit, c'est là qu'est la vérité. Dans l'évangile, oui, mais là, cette fois-ci, on le voit vivre sous nos yeux. Et ça a été une immense joie dans notre cœur. Mais on arrive à la fin de la session et il ne s'était rien passé pour moi d'extraordinaire. Si ce n'est que je trouvais que tous ces frères et sœurs étaient merveilleux, mais c'était tout. Et là, j'étais jalouse le dernier soir de toutes les guérisons qui étaient données. Je me dis, moi j'ai payé, c'est le dernier soir. Je vais partir bredouille. Et alors, je me suis souvenue d'un enseignement que Daniel Ange avait donné le matin, où il nous avait dit, nous étions tous en corps. Et que quand une petite partie du corps était guérie, tout le corps était régénéré. On devait se réjouir de cela. Alors, j'avais vibré le matin, mais le soir, j'étais jalouse. Hein, la bonne nature humaine qui revient. Et en me disant, mais qu'est-ce que tu as pour attirer Dieu? Qu'est-ce que tu as, toi, pour attirer Dieu? Et je ne voyais rien dans ma vie qui puisse attirer Dieu. Et puis, je me suis ressaisie et j'ai béni le Seigneur pour ce qu'il faisait pour ces personnes qui avaient des grandes guérisons, des petites ou des grandes guérisons. Et je me suis ressaisie, c'est ça. Et j'ai dit au Seigneur, mais à propos, il faudrait peut-être que je sois plus claire. Qu'est-ce que tu veux faire pour moi? Peut-être qu'il faudrait que je sois plus précise. Et je lui ai dit, alors je pense que c'est vraiment l'Esprit Saint qui m'a inspiré cela. Seigneur, si tu veux faire quelque chose pour moi, montre-moi mon péché. Aïe, aïe, aïe. Vous vous souvenez qu'il y a un certain curé d'Ars qui avait dit ça? Il en a conçu un désespoir incroyable de voir son péché. Enfin, j'ai dit ça. Seigneur, si tu veux faire quelque chose pour moi, montre-moi mon péché. Le lendemain, je viens à la dernière, il n'y avait plus qu'une célébration, une messe. Je viens au premier rang dans la basilique en me disant comme ça, je pourrais capter Dieu encore, puisque je pensais capter Dieu avec mes sens. Et voilà. Et puis quelqu'un vient se mettre debout devant moi au début de la célébration. Je ne suis pas contente, je le fais pousser. Une autre personne revient, mais là, attention, regarde les autres. J'ai pas envie qu'on me remarque trop non plus. Donc, je ne dis plus rien, je ne vois plus rien. Et je suis un peu contrariée, voilà. Et puis, le sermon arrive. Pour moi, les sermons, c'est tout ce qu'il y avait de plus beau. Enfin, je ne comprenais pas encore grand-chose non plus, mais les homélies étaient passionnantes toutes. Et alors, j'enregistrais tout ça, et puis j'entends un petit clic dans mon portable, et je mince, je cherche une cassette parce que la cassette était finie, j'en cherche une autre, mais elles étaient toutes pleines, c'était la fin de la session. Alors, je dis, ça y est, je ne peux rien enregistrer, je ne peux rien voir. l'évangile de ce jour. Venez à moi, vous tous qui peinez, qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai, car je suis doux et humble de cœur. Le diacre qui fait le serment dit ceci. Alors, c'est 4 ans plus tard que j'ai commandé des cassettes et j'ai retrouvé ce serment. Alors, je peux vous le dire, je ne vais pas faire tout le serment, mais je vais dire quelques mots. Alors, il dit, le royaume vient, il est déjà au milieu de nous. Le Seigneur nous donne le mode d'emploi. Venez à moi, fermez les yeux. Alors, moi qui essayais de tout capter avec mon regard, regardez-moi, je suis la source de la guérison de la vie. De mon cœur coule des fleurs de vie. Ne regardez pas le podium. Alors là, je me suis sentie déshabillée. Ne soyez pas distrait. Regardez-moi, car je suis douce et humble de cœur. Et je suis tellement douce et humble qu'il ne nous force pas. Comme une biche a soif de l'eau vive, moi aussi, j'ai soif de toi, Seigneur. Est-ce que je vais mourir de soif à côté de la source? Est-ce que je vais rester immobile alors que le grand médecin est à côté de moi? Quand nous prions le cœur de Jésus devant le Saint-Sacrement, cela ne doit pas rester une simple dévotion, c'est beaucoup plus que cela. C'est une rencontre à laquelle il nous appelle. Quand nous venons à Paray-le-Monial, c'est comme pour les pèlerins d'Emmaüs. Voilà le moment où la plénitude de l'amour de Jésus se révèle. Et tout d'un coup, il est là, il chemine avec nous, et on ne s'en rend pas compte tant il est doux et humble de cœur. Et à ce moment-là, il y a vraiment un rideau, un qui s'est fermé pour le devant de la scène, et un autre rideau qui s'est levé. Et j'ai vu Jésus, il était tout en blanc, les yeux baissés, et je me suis sentie aimée comme jamais j'avais été aimée. Au même instant, j'ai vu mon péché, j'ai vu mon néant, que je n'étais rien, mais que j'étais aimée infiniment. Je peux vous dire que cette vision m'a complètement, évidemment, bouleversée, fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais ce que j'ai le plus goûté, c'est cette liberté que Jésus me laissait. Et il avait vraiment les yeux baissés, pour ne pas faire pression sur ma liberté. Il me laissait totalement libre, et comme un amant, vous savez, qui est caché derrière le treillis, mais qui attendra des années que vous lui ouvriez la porte, mais il ne forcera jamais la porte de votre cœur. Et ça m'a donné envie de le suivre, de dire mon oui et de m'attacher à lui, vraiment. Alors, je me suis retrouvée à la communion, je pleurais toujours, mais des larmes de joie. Et quand je suis revenue à la communion, on a donné cette parole de science. Il y a parmi nous une maman stérile depuis 10 ans. Le Seigneur est en train de la guérir et elle reviendra l'an prochain avec son enfant. Donc, il fallait faire vite. Alors, je n'ai pas pris cette parole pour moi. Vous savez, ça fait tellement drôle, ces paroles, que Dieu puisse s'intéresser comme ça, de manière aussi directe à votre vie, dans le détail de votre vie. C'était trop... Bon, voilà, j'ai pas pris pour moi. Et je me suis dit, il y a 2000 personnes ici, il y a plus d'une femme qui doit être stérile. Et voilà. Mais par contre, la vraie libération, ça c'était du bonheur en plus, d'avoir un enfant ou pas. Mais la vraie libération, c'est d'avoir vu mon néant, que je n'étais rien, que j'étais vraiment une femme de rien. Parce que devant l'amour infini, vous savez, on pèse pas lourd. Et ça, c'était la grande grâce de ma vie. Et en sortant, j'ai cherché mon mari, parce que toujours en retard. Et donc, comme j'avais voulu être en avance ce jour-là, il n'était pas à côté de moi. Je le cherche, on va se mettre dans le parc des Chapins. Et je n'avais qu'un mot à lui dire. Yves, il n'est que miséricorde, que miséricorde, que miséricorde. Je n'avais pas d'autres mots pour venir décrire cette expérience que je venais de vivre. Il n'est que miséricorde. Nous sommes rentrés chez nous. Ma vie a basculé, vous imaginez. Il est vivant dans tous les cœurs de ceux que je rencontre, il est vivant en moi. Il m'aime au-delà de mon péché, quel troc extraordinaire. Tu me donnes ton péché, tu me donnes tout ce que tu es, tes pauvretés, tes faiblesses, ton péché, tes blessures. Et le troc, et ben moi, je brûle tout dans mon amour. Tout était brûlé, à l'instant même, mon péché était brûlé dans son amour. Alors avec ça, le pape Jean-Paul II a sorti sa première encyclique, Dieu riche en miséricorde. Alors, je l'ai dévoré. Et j'y ai vu, parce que je n'avais que ce mot, et c'était pas un mot de mon vocabulaire de l'époque, et je voulais bien savoir ce que ça recouvrait. Et j'ai vu dit de manière théologique, tout ce que recouvrait la miséricorde. Et ils décrivent dans cette encyclique-là, en hébreu, tout le vocable très très riche, hein, d'un Dieu qui a en même temps un cœur de père et un cœur de mère. Il y a des racines extrêmement fortes qui montrent, les aides, l'amitié très profonde que peuvent vivre deux hommes basée sur une fidélité qui ne se reprend pas à la miséricorde, une fidélité qui ne se reprend pas. Et puis il y a aussi ce mot de ramin dans le vocable et qui veut dire la tendresse d'une mère. Une mère oublierait-elle son petit? Moi, je ne t'oublierai pas. Ce mot est très très fort, c'est vraiment ce lien très spécial, gratuit qu'une mère peut avoir avec son enfant. Donc c'est ça la miséricorde, c'est ça notre Dieu. Un Dieu qui ne peut pas faire autrement que de se pencher sur la misère de son enfant, qui ne peut pas faire autrement que de venir l'aider à respirer, de lui faire du bouche à bouche, hein, parce qu'il y a bien des moments de notre vie, et pour ceux qui ont des cheveux blancs déjà, ils le savent, hein, où on a l'impression qu'on a la tête sous l'eau et qu'on ne peut même pas reprendre sa respiration. Si la miséricorde du Seigneur est là sans cesse pour nous faire reprendre notre respiration. Voilà, le vocable de la miséricorde. Soulager quelqu'un encore, vous voyez, Naam dans les racines. Soulager quelqu'un, faire cesser ses gémissements en l'aidant à respirer. Voilà ce qu'est la miséricorde de Dieu pour nous. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Parce que tout ce que j'ai entendu de mon père, je vous l'ai fait connaître. Il faut quand même que je vous dise que 8 jours après, j'étais enceinte, non pas de l'opération du Saint-Esprit, mais d'une union avec mon mari. Nous avons attendu un petit Samuel, 8 jours après cette rencontre de la miséricorde. Donc le Seigneur a tenu ses paroles, hein, il est vraiment toute tendresse pour chacun de nous. Et c'était une surabondance d'amour que cet enfant qui nous a été donné. Donc, à partir de cette première expérience, vous voyez, nous pouvons vraiment nous dire que Dieu n'est que miséricorde et qu'il suffit de la juxtaposition de notre sottise, peut-être, devant sa toute sagesse, de notre ingratitude devant sa toute bonté, de notre méchanceté, oui, devant cet amour infini, pour qu'un précipité ait lieu qui s'appelle la miséricorde. Mais il faut absolument la condition pour que la miséricorde de Dieu se déverse dans nos vies, c'est que nous nous reconnaissions dans une incapacité, nous puissions avouer que nous sommes dans un cul-de-sac, que nous avons fait fausse route, que nous n'arrivons plus à aimer. J'aime plus ma belle-mère, je ne peux plus la supporter. Alors, osez le dire, tournez silencieusement ensuite notre regard vers le Seigneur et posez un acte de foi. C'est cet acte de foi qui nous fait toucher Dieu, qui nous fait atteindre Dieu. Nous n'avons pas d'autre pouvoir sur le cœur de Dieu que notre foi, frères et sœurs. Cette foi, c'est-à-dire cette adhésion, ce oui qu'on va dire, qu'on va donner, cette acceptation qu'un autre, une autre lumière nous soit donnée que notre propre lumière. Accepter qu'une autre lumière vienne pour nous éclairer. L'acte de foi nous fait, nous met en Dieu, nous fait posséder Dieu pleinement. Hein, c'est pas seulement d'être dans l'aura de Dieu, mais si nous voulons pénétrer dans les entrailles de Dieu, nous avons l'exercice de la foi. Nous pouvons exercer depuis notre baptême. Alors, profitons-en, hein, profitons-en, parce que ça va nous... C'est comme si on lançait des flèches dans le cœur de Dieu quand nous exerçons la foi. Et Dieu est complètement troublé. Vous vous souvenez de la femme qui avait la blessure inverse de la mienne, l'hémorroïs, hein, et qui dit, il faut qu'elle touche. Jésus, avec sa foi, elle touche Jésus. Et Jésus se retourne, qui m'a touché? Et c'était cette femme, il y avait une foule immense, mais seulement cette femme qui, avec l'antenne de la foi, est venue dans le cœur de Dieu, hein, tirait de Jésus quelque chose de sa divinité. Et lui, il n'a même pas vu, il a été précédé dans son, voilà, son humanité a été dépassée un court instant. Qui m'a touché? Une force est sortie de moi. Si nous voulons faire sortir une force du cœur de Dieu, à propos de tout ce que nous vivons, tout ce qui nous arrive, eh bien, il faut cette foi, cette confiance en Dieu, venir le toucher, venir lui dire que nous savons que lui, il a une solution, que nous, nous nous sommes plantés, que nous, nous n'arrivons pas à nous sortir de notre problème, mais qu'en lui, nous avons l'assurance que quelque chose de divin nous sera donné dans tous nos actes de foi. Dieu ne peut pas faire autrement que de se donner quand nous posons un acte de foi. Il faut imprimer ça dans votre tête. Ça va vous aider. Ça va vous aider pourquoi? Ça va vous aider pour ces temps de cœur à cœur. Quand je suis revenue de Paray-le-Monial, je n'avais qu'un désir, c'était de prendre du temps pour lui, avec lui, de le retrouver, puisqu'il est vivant en moi, en tous ceux que je rencontre. Eh bien, prenons du temps. Il n'y a que comme ça que nous allons pouvoir devenir les amis de Jésus. Nous ne pouvons pas être amis de Jésus si nous gardons de la distance. Alors, on peut être serviteur, oui, mais serviteur renfrogné, avec, comme disait le pape François, avec des têtes de piment vinaigre. C'est ça, il dit. Hein? Voilà, on a des têtes de renfrogné ou de. Voilà. Et parce que nous ne sommes pas entrés dans cette intimité avec lui. Dieu n'attend que cela. Je disais que c'est un amant. Et il veut déverser tout son amour dans nos cœurs. Et il cherche. Il cherche partout des cœurs qui accepteront de se laisser aimer. Parce que qu'est-ce que la prière? Ce n'est pas autre chose que de se laisser aimer. Vous voyez, aimer, on est encore dans le faire peut-être des fois, mais se laisser aimer, accepter de se laisser regarder, nous en avons tellement besoin. Nous pouvons vivre des années et des années sans ce regard pur d'amour. Et donc nous sommes en manque d'amour tous. Nous sommes dans cette nostalgie d'un amour infini. Et nous ne serons comblés que lorsque nous aurons laissé ce regard de Jésus longtemps, longtemps nous pénétrer, comme un goutte à goutte, jour après jour, dans ces temps de cœur à cœur. On nous a invités, on nous parlait hier de la prière contemplative. Et je dirais juste un mot, une petite anecdote qui dit ce qu'est la prière, si vous pouvez la retenir, parce que c'est tellement simple. Un petit garçon venait tous les jours prier dans une église un long temps. Le père Marie-Eugène de l'enfant Jésus, qui est un carme, qui a fondé l'Institut Notre-Dame de Vie, voit ce petit enfant tous les jours venir, et lui, comme c'était un grand pédagogue de l'oraison, il s'est dit, il faudrait que je le questionne, peut-être qu'il a à me révéler un secret, et j'aimerais bien savoir ce qu'il vit dans son temps de prière. Et il questionne le petit garçon, il lui dit, alors mon petit garçon, tu viens prier tous les jours, c'est bien, tu parles à Dieu, oui, petit garçon, alors peut-être Dieu te parle. Le petit garçon. Alors qu'est-ce que vous faites? Haussement d'épaule du petit garçon. On est deux. C'est magnifique. On est deux. Et c'est ça l'horizon. Et c'est ça la contemplation. Mais nous, on est très compliqué. On a compliqué beaucoup les affaires. On a beaucoup de choses dans la tête. Et il faut se simplifier pour arriver à cet endroit, ce lieu au fond de notre cœur, hein, qui est là et où Jésus habite, la Trinité est présente dans chacun de nos cœurs, et il faut faire silence, effectivement, et prendre le chemin du rien, hein, pour qu'on aille vers ce tout, hein, rien pour moi, rien pour mon imagination, rien pour... Voilà, je me dégage de moi-même, je me décentre de moi-même, pour aller au plus profond de moi, pour arriver dans ce lieu où Dieu demeure, où je n'ai plus qu'un seul acte de foi à faire pour qu'il y ait un échange. Parce que c'est ça que Dieu veut faire dans l'oraison. Dans la prière, Dieu veut s'échanger avec nous. Et ça ne se fera qu'à partir d'un acte de foi très pur, très profond, où je vais me lâcher, c'est un mot plus moderne, mais je vais me lâcher en Dieu. Élisabeth de la Trinité disait, tout mon exercice est de rentrer au-dedans pour me perdre en ceux qui sont là, se perdre en Dieu. Voilà ce que Dieu attend. Et c'est quand nous arrivons à cette simplicité de rapport, d'amitié, d'intimité avec lui, que notre être est profondément transformé. C'est là que se fait toute la transformation de notre être. Alors nous voulons beaucoup de choses, nous voulons la sainteté. Comment accéder à cette sainteté? Par ces temps de cœur à cœur. Et Jean-Paul II nous dit qu'il faut apprendre à prier. On est obligé d'apprendre. Ce petit garçon à 8 ans, il savait faire. Mais nous sommes compliqués, on a tout compliqué les affaires. Il faut réapprendre tout cela par des écoles de prière. Et je vous invite à une école de, à une petite session sur la prière, je ne sais plus quand, au mois de mars, je crois, à Paris-Monial. Parce qu'il faut apprendre à prier, parce qu'on se décourage tous et que ce sera le grand combat de notre vie, toute notre vie. Ce sera de grandir dans cette intimité par une fidélité à la prière. Deuxième chose dont je voudrais vous parler, c'est que pour devenir vraiment les amis de Jésus, il nous faut entrer dans son commandement qui est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. » Alors, voilà la deuxième étape après ce chemin d'intériorité, ce chemin du don de soi. Jean-Paul II, vous savez, n'a cessé dans ses enseignements de nous répéter que le don de soi était vraiment ce qui donnait toute la dignité à l'homme. Alors, je ne sais plus, il y a plusieurs citations de lui. Parce qu'être une personne signifie tendre à la réalisation de soi qui ne peut s'accomplir qu'à travers un don désintéressé de soi. C'est dans Mulieris Dignitatem, mais vraiment à différents endroits, il a cessé de répéter que ce don de soi était ce qui allait nous donner aussi, bien sûr, la joie, qui allait nous faire être des personnes et nous réaliser pleinement. Alors, il ne faut pas avoir peur de cela, mais c'est très difficile. Parce que ce don de soi, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est une disposition de l'âme, comme un élan vital qui nous pousse hors de nous-mêmes pour nous donner aux autres, à Dieu et aux autres. L'enfant Jésus dit aimer, c'est tout donner et se tenir soi-même. Tout donner, je vais y revenir. Ou encore, ça c'est Élisabeth de la Trinité, aimer c'est s'oublier soi-même, hein, c'est ça, pour se perdre en l'autre. Alors, il faut savoir que nous sommes tous profondément marqués par ce don de soi, par ce désir de se donner, ce désir d'oblation. Il est inscrit au plus profond de notre être. Pourquoi ? Simplement parce que quand nous avons été désirés de toute éternité par Dieu, qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu? Puisqu'on sait aujourd'hui, dans la psychologie, on nous dit que l'enfant est profondément marqué par ce que la maman avait dans son cœur au moment où elle l'attendait. Et bien, qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu? Vous vous êtes déjà posé cette question? Il n'y avait que du don. C'est une surabondance de son amour, complètement gratuite. D'avoir voulu que des êtres partagent avec lui ce bonheur immense qu'il vivait au sein de la Trinité. Il n'y avait que du don, que du don, que du don. Donc nous sommes forcément marqués nous aussi par ça. Et ce désir d'oblation, nous l'avons tous en nous. Par contre, le monde va nous conduire exactement à l'opposé de cela. Il va nous dire, prends, capte, possède et tu seras heureux. Et donc il faut combattre cette idée qu'on a tous un peu, que peut-être en se donnant, on va perdre. Alors on va perdre, oui c'est vrai, on va perdre quelque chose, mais qui est extraordinaire, on va perdre la trace de notre moi égoïste. Et ça c'est un vrai boulet qu'il faut qu'on se traîne, et on va perdre cette trace, et ça c'est merveilleux. Le don de soi va nous faire perdre la trace de notre moi égoïste. Alors, se donner, c'est vraiment inscrit dans notre nature. Si nous refusons à cela, eh bien, nous allons garder des natures toutes courbées. Hein? Natura curva, disait Saint Bernard, parce que nous refusons de donner libre cours à cet élan qu'il y a en nous de nous donner. Nous nous frustrons. Et ce que la société nous propose, c'est donc une frustration à perpétuité. Alors merci bien si vous avez envie de garder cette voie. Mais quel bonheur de pouvoir en échapper. Alors, nos résistances sont très fortes. Très très fortes. Et Thérèse d'Avila, qui voulait amener ses petites novices à ce don de soi radical, elle a vraiment été très contrariée parce qu'elle a vu que beaucoup de femmes venaient donner aussi des serviteurs du Seigneur en venant donner leur vie, la pauvreté, la chasteté, en arrivant dans leur couvent, c'était déjà pas mal hein, comme don d'elles-mêmes. Et en même temps, elles ne franchissent pas un cap et elles stagnent toute leur vie. Alors c'est dommage parce qu'elles ont donné quand même des choses fortes à leur Dieu et en même temps elles n'en ont pas la récompense, elles ne vont pas jusqu'à la sainteté. Alors elle se pose cette question, elle dit: nous sommes si lents à faire à Dieu le don absolu de nous-mêmes que nous n'en finissons plus de nous préparer à cette grâce véritable amour. Il nous semble que nous donnons tout à Dieu. Or, écoutez bien, nous ne lui offrons que les revenus et les fruits, tandis que nous gardons pour nous le fond et la propriété. Pas folle la guêpe, hein? On se garde le fond et la propriété et on donne quelques revenus. Alors, ça fait une pointe d'humour, hein? Mais elle cherche vraiment qu'est-ce qui manque à ses âmes pour qu'elles se donnent. Au début, elle se dit, ça doit être l'humilité. Maintenant, manque peut-être de l'humilité. Puis, en méditant tout ça, le Seigneur, vous savez, l'a beaucoup éclairé. Et elle dit, non, ce n'est pas ça. Vous savez ce qui leur manque? Un grain de folie qui les aurait fait délirer. Alors, délirer dans le bon sens, hein, qui leur aurait fait se lâcher en Dieu. Voilà, vous savez ce qui leur manque? Un grain de folie. Leur amour n'est pas assez grand. Leur raison est trop raisonnable. Et l'amour n'est pas assez fort pour les faire délirer. Voilà. Alors, on ne va pas vous demander d'être... Mais on a dit tout à l'heure, hein, c'est ce qu'il y a de fou dans le monde, hein, que le Seigneur a choisi. Voilà. Et alors, si nous arrivons à faire ce passage, et je vais essayer de vous y aider, je ne sais pas si je vais y arriver, mais essayer de vous y aider, eh bien, ça va obliger Dieu à se donner. Si vous vous donnez de manière absolue, radicale, Dieu ne peut pas faire autrement que de vous donner, de se donner totalement à vous, dans l'oraison, dans la prière, dans la contemplation, mais également, il vous donnera une fécondité qui vous dépassera. Alors, qu'est-ce qui s'oppose? Mère Teresa disait: donnez-vous entièrement à Dieu, il se servira de vous pour faire de grandes choses, à condition que vous croyiez plus à son amour qu'à votre propre faiblesse. Alors, nous allons venir. Les obstacles au don de soi, ou alors les qualités d'abord peut-être, les qualités du don de soi, ce don de soi, il faudrait qu'il soit indéterminé. C'est-à-dire beaucoup d'entre nous sont tentés dans un début de cheminement par des projets généreux et on se voit bien au centre de ces projets et on demanderait à Dieu sa bénédiction paternelle, mais c'est nous qui sommes complètement au centre du projet. Et en fait, ce ne va pas du tout être l'œuvre de Dieu, mais notre œuvre à nous, et nous demandons à Dieu de bénir cette œuvre. Il faut se méfier de cela. Hein. L'autre jour, on a mangé avec des amis qui nous ont dit, voilà, on a une grande maison, un grand hangar, et voilà, et on se fait quelque chose, peut-être, voilà, une chapelle, inviter des pauvres, des paumés. Mais tout était très flou, très vague. On les a bien écoutés, mais on leur a dit, faites attention, parce que dans un début de cheminement, on est encore très très à la recherche de notre moi, de notre orgueil, de se montrer. Et donc le malin, il a vite fait de casser les affaires et de nous faire déraper dans le tournant pour qu'après on ait des blessures et que voilà, on ne comprend pas, mais pourtant j'avais été généreux, j'avais fait ci, j'avais fait là. Voilà. Alors c'est mieux de se mettre dans une certaine soumission et surtout de demander le discernement à d'autres quand on veut entreprendre de grandes choses. Le Seigneur souvent va se servir de nous, mais dans l'humilité du quotidien, dans l'ombre. Père Marie-Eugène disait, c'est dans l'obscurité qu'il faut chercher le dessein de Dieu, car ses pensées dépassent les pensées humaines, car le ciel dépasse la terre. Voilà, ce don que nous devons faire, pour des réalisations indéterminées. On ne sait pas ce que sera l'avenir, mais Seigneur, je me donne à toi, je te donne mon avenir. Ce n'est pas un essai de communion au vide. C'est un don effectif à des volontés divines, certaines, mais qui sont inconnues pour le moment. Il faut que nous acceptions tous de vivre en sachant pas ce que demain sera fait. Moi, jamais j'aurais pensé qu'un jour on vienne me chercher pour me dire, Béatrice, est-ce que tu ne veux pas prêcher une retraite aux femmes à Paris-Monia? Mais je lui ai dit, mais vraiment, mais puisque ça tombe cette affaire-là, hein, moi qui ai tant de blessures dans ma féminité, c'est pas moi qui vais venir chercher. Voilà. Alors, les desseins de Dieu, vous voyez, sont bizarres. Alors, attendez-vous à l'imprévu, hein, par contre, préparez-vous toujours à l'imprévu. Le Seigneur peut se servir de vous, mais de manière des fois très obscure, dans un quotidien très simple. Pas simplement le sourire que vous allez donner, la manière d'être avec les gens. Dieu peut se servir de vous continuellement. Et je pense qu'au début, nous, avant notre rencontre de la miséricorde, nous avions toujours de grands projets généreux. Et on a arrêté tout cela. Et le Seigneur m'a ramené à mon devoir d'État. Béatrice, tu vas préparer le goûter des enfants quand ils vont arriver. Tu vas te mettre à leur service dans l'amour, par amour pour eux, unis à moi, unis à ma volonté. Il m'a montré un jour ce que ce serait cette union de volonté. Moi, je rêvais. L'union de volonté, je savais que c'était une étape de la vie spirituelle. Et le Seigneur m'a fait faire un petit film un jour quand j'étais en prière. Et il m'a montré que cette union de volonté, elle allait se réaliser dans des choses extrêmement simples de mon quotidien. Et c'était en me levant, garder la paix du cœur quand les enfants sont en train de se disputer. Ce serait après les préparer pour leur aller à l'école, etc. Tout un tas de choses que je faisais avant qui étaient pour moi des belles sommes. Hein, tout ce devoir d'État qui était lourd pour moi. Hein, je n'étais qu'un serviteur avec ma face de piment de vinaigre. Et je râlais intérieurement parce qu'il fallait que je fasse des allées et venues pour les enfants et que comme j'habitais à la campagne. Et tout ça me faisait râler. Allez, je cherchais à avoir du temps pour moi, du temps pour moi, du temps pour moi. Oui. Alors, ce don indéterminé, vous voyez, il faut le faire pour des réalisations inconnues aujourd'hui, mais on peut être sûr que Dieu se servira de plus en plus de nous. Ce don produit une désappropriation de tous les projets personnels. Et il réserve toutes les forces de l'âme pour des réalisations non seulement futures, mais quotidiennes, dont la providence fixe chaque jour le mode. C'est la providence qui va fixer le mode de ces réalisations de ce don et qui reste mystérieuse pour l'avenir. Une autre qualité de ce don, il y aura trois qualités, indéterminée, absolue et souvent renouvelée. Alors j'en viens au mot absolu qui nous fait tous très peur. Ah oui, il faut que je me donne de manière absolue, donc il faut que j'aille habiter dans une cabane dans les bois, il faut que je vende ma maison, ma pauvre piscine que j'avais fait faire et tout ça, et tout. Alors qu'est-ce qui va se passer? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire ce don absolu? Alors, moi j'ai été très touchée, j'ai été éclairée par, puisque j'habite à côté de chez Marthe Robin, par quelque chose qui était dit de Marthe. À un moment donné, Marthe Robin était déjà bien malade, pas encore trop quand même, parce qu'elle pouvait encore voyager. Et il y avait un pèlerinage à Lourdes qui était organisé par le diocèse. Et ses parents veulent bien lui payer le voyage et tout ça, donc elles étaient inscrites. Et vous imaginez cette petite Marthe qui aime tellement la Sainte Vierge, d'aller à Lourdes, c'était un cadeau fabuleux. Et donc elle se tout préparait, et trois jours avant, elle a une visite du curé du village, l'abbé Fort, et qui vient lui dire, simplement dans la conversation, il lui dit, mais c'est dommage, il y a un monsieur qui est en fauteuil roulant, handicapé, qui voulait aller à Lourdes, mais il n'y a plus de place. Elle a entendu ça, et elle a proposé au curé de donner sa place pour cet homme. Quand on représente dans la tête de cette petite jeune fille ce que représentait le voyage, combien elle avait dû le concocter, l'imaginer, et se voir déjà là-bas devant la Sainte Vierge. Alors le curé, il a été fortement impressionné. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il a été dit ensuite, depuis ce jour-là, a-t-elle dit, plus rien ne m'a jamais coûté. Alors moi, je me suis dit, ça m'intéresse, hein, parce qu'on n'est pas masso. Et on veut bien se donner, mais on se dit, peut-être que ça va être, voilà, quel prix à payer, etc. Et là, j'ai compris à travers ça que cette petite Marthe, elle avait vécu ce don, ce cadeau qu'elle avait fait, ce don de ce voyage, de manière absolue. C'est-à-dire qu'elle n'a rien gardé pour elle, elle a tout donné et elle a dû en recevoir une telle récompense, une telle jouissance de ce don qu'elle avait fait, qu'après, elle a osé dire « plus rien ne m'a jamais coûté ». Alors moi, je me suis dit ben, « ça, il faudrait que j'essaye de l'appliquer dans ma vie ». Et donc, c'est veiller à la pureté d'intention, à la pureté de nos actes. Alors, il s'est trouvé que quelques mois plus tard, nous étions en week-end communautaire de la communauté de l'Emmanuel, justement à Châteauneuf-de-Galore, chez Marthe. Et le matin, nous avons eu un enseignement sur, je ne sais plus trop, mais la souffrance, quelque chose qui était donné par le Père Michon, et qui m'avait fait, une fois encore, vibrer. Et je m'étais dit, oh là là, mais moi, je veux faire le don absolu de ma vie. Ben, vraiment, j'étais partie. Et alors, l'après-midi, nous devions monter à la plaine, dans la chambre de Marthe. Et là, il y a des stations, on devait faire le chemin de Morin plus ou moins. Et alors, je me voyais à toutes les stations, faisant la donation de ma vie. J'allais vraiment me donner, je vous promets, hein, c'était magnifique. Et je me voyais, voilà, jusqu'en haut, très bien. Et au moment où je sors de l'église, quelqu'un vient mettre sa main sur une grosse main velue, là, qui vient se mettre sur mon épaule. Je ne me retourne pas et il me glisse à l'oreille. « Béatrice, on a pensé à toi pour le service nourrisson. » Cet après-midi. Alors, je ne pouvais même pas refuser parce que j'habitais quelques kilomètres. D'autres avaient fait 300 kilomètres pour venir. Donc, je n'ai même pas répondu. C'était évident que je devais y aller. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais quand je suis allée l'après-midi dans ce service, j'ai exulté de joie pendant 3 heures, comme jamais j'ai exulté de joie dans un service communautaire. Pourtant, j'en ai fait des services. Le Seigneur a voulu me montrer à travers ça que j'avais une pareille joie parce que j'étais là où le Seigneur me voulait. Mais c'est ça qui compte. Et nous, c'est toujours notre volonté propre qui est là, qui vient se mettre en travers. Mais être là, ce n'était pas les grandes tirades que j'allais faire au Seigneur ce jour-là, mais c'était dans cette application humble et toute simple de ce service nourrisson que le Seigneur allait me combler et accueillir ce don que je faisais. Le don que je faisais, me se donner totalement. Alors, le problème, c'est qu'on se reprend très vite. Hein. Malheureusement, on n'est pas des anges. Et donc, nous, eh bien, on fait un don radical de soi. Et puis, un mois plus tard, 2 mois plus tard, on reprend nos billes. Et puis, il faut recommencer. Donc, il faudra renouveler très souvent ce don. Il faudra renouveler très souvent ce don pour que, vraiment, petit à petit, il fasse complètement partie de notre une seconde nature. Qui fait que plus rien ne nous coûte, c'est vrai. Parce qu'on reçoit une joie, une jouissance de cette union à Dieu. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, eh bien, nous avons une énergie qui est décuplée. Le Seigneur nous redonne au centuple. Et nous qui avons peur de nous perdre, de nous user, quand nous nous donnons, eh bien, se dire qu'il y a une énergie surnaturelle qui nous est donnée quand nous nous donnons. On ne peut pas expliquer ça autrement. Un pape François qui, là, s'est donné pendant ses JMJ, qui depuis 3 mois, il se donne complètement, alors qu'il a déjà quand même un âge qui pourrait lui faire montrer son usure et sa fatigue. Eh bien, je suis absolument sûre, parce que c'est comme ça que je le vis, moi, mais on a une énergie divine qui vient se greffer sur notre nature humaine et qui nous permet de tenir le temps que le Seigneur voudra, hein, pour se donner à lui. Et on peut se donner aussi sur un lit de souffrance, nous allons y revenir. Donc, on retient, hein, la première qualité du don, il faut qu'il soit indéterminé. Deuxième qualité, troisième qualité, voilà. Alors, quelles sont nos résistances? Un petit mot sur nos résistances. Nos résistances, voilà. Alors là, je vous prends un texte que je vais vous lire. Nos résistances sont fortes. Voilà. Les obstacles au don de soi. Je vous lis un texte qui a beaucoup marqué notre fondateur, Pierre Boursat. Et quand notre fondateur a entendu ce texte, il était lu dans un couloir quand il passait. Il a demandé, après il a attendu la fin de l'enseignement, et il a demandé, mais qui a écrit ça? Qui a écrit ça? Alors je vous dis, cet homme s'appelle le Père Lallemand. Le Père Lallemand qui était un spiritain, je pense. Et qui écrit, qui dit cela. Qu'est-ce qui s'oppose au don de soi? Nous passons des années entières et souvent toute la vie à marchander si nous donnons tout à Dieu. Nous ne pouvons nous résoudre à faire le sacrifice entier. Nous nous réservons beaucoup d'affections, de desseins, de désirs, d'espérances, de prétentions dont nous ne voulons pas nous dépouiller pour nous mettre dans la parfaite nudité d'esprit. Vous voyez, parfaite nudité d'esprit qui nous dispose à être pleinement possédés de Dieu. Ce sont des liens par lesquels l'ennemi nous tient attachés pour nous empêcher d'avancer dans la perfection. Nous reconnaîtrons la tromperie à l'heure de la mort et nous verrons que nous nous sommes laissés amuser par des bagatelles comme des enfants. Nous combattons contre Dieu des années entières. Il faut prendre conscience de ça, on est dans la résistance. Et nous résistons au mouvement de sa grâce qui nous pousse intérieurement à quitter une partie de nos misères en quittant les vains amusements qui nous arrêtent, en nous donnant à lui sans réserve et sans remise, mais accablés de notre amour propre, aveuglés de notre ignorance, retenus par de fausses craintes, nous n'osons franchir le pas, et de peur d'être misérables, eh bien nous demeurons toujours misérables, au lieu de nous donner pleinement à Dieu, qui ne veut nous posséder que pour nous affranchir de nos misères. Si on peut comprendre cela, que nous sommes dans la résistance et que nous nous laissons amuser par des bagatelles qui ne nous remplissent pas, qui ne nous comblent pas, et que c'est le jour où nous aurons tout donné à Dieu que nous commencerons enfin à être comblés. Moi, j'ai entendu ce texte. Moi, je ne passais pas dans un couloir, j'étais en train de repasser mon linge. Dans ma chambre, je repassais le linge. J'entends ça et je me suis arrêtée et j'ai été chercher un crayon pour noter ce texte et me l'approprier. Vous voyez, parce que en répétant les choses, comme vous a dit Boulevard, eh bien, les choses se réalisent en nous. Hein, elles vont se réaliser par la magie de la répétition qui est le chemin du cœur. Qui est le chemin du cœur. Et voilà. Un petit signe discret, mais quand même psych troublant pour les enseignants. Voilà. Et donc, j'essayais de me dire, voilà, on est retenu par de fausses craintes. Parce qu'on a peur d'être misérable, mais c'est l'inverse. Dieu veut nous enlever ses misères. Nous avons peur de Dieu, il faut en prendre conscience. On a peur de la souffrance, oui, mais encore, la souffrance, elle reste dans l'ordre des choses limitées, et on peut encore la contrôler. Mais l'amour infini de Dieu, nous en avons peur. Et ça, un jour, il faut le comprendre, il faut le découvrir. J'ai peur de me laisser aimer par l'infini, parce que où est-ce que ça va me conduire? Alors, lisons les vides saints pour nous rassurer. Comme disait la petite Thérèse, elle empruntait ça si tu as peur de Dieu, Saint-Augustin, si tu as peur de Dieu, jette-toi dans ses bras. Il n'y a que ça à faire. Hein. Si tu as peur de Dieu, jette-toi dans ses bras. Et puis, tu vas expérimenter que c'est un amour, une tendresse qui t'étreint. Je voudrais dire, pour terminer, parler d'une chose importante. Que donner? On peut donner, bien sûr, son temps, notre corps, et le temps dans lequel vit notre corps, bien sûr. Et là, il faut essayer de garder des agendas pas trop remplis pour que nous ayons toujours cette possibilité que le divin fasse irruption, nous fasse des clins d'œil pour nous montrer les endroits, que la Providence nous montre les endroits où nous pouvons nous donner. On peut donner son corps, son cœur, bien sûr, mais on peut donner ses passifs. Et là, je vais en dire un mot pour les 4 minutes qui me restent. Voilà, nous avons l'existence de chaque homme se divise en deux parties. Il y a ce qu'il fait et ce qu'il subit. Or, ces deux moitiés de notre vie, elles sont aussi pleines de Dieu, de sa présence. Et sa présence peut s'y manifester. Alors, Dieu, l'offrande ultime de soi, voyez, c'est l'offrande de la passivité. C'est-à-dire, le don, elle va devenir abandon. Le le don va devenir abandon. Cette acceptation humble et joyeuse, effectivement, de ce qui est, de tout ce qui est. Celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Combien de fois, avec mon mari, nous nous sommes retrouvés devant des situations dramatiques, dans une impuissance totale. Je dis juste comme ça, mais des choses terribles qui humainement sont impossibles à supporter s'il n'y a pas la grâce de Dieu. Un enfant qui se fait violer et on lui laisse le souvenir du sida. Une autre qui à la suite d'un viol aussi vit 10 ans d'alcoolisme. Un autre, etc. Voilà, nous vivons ça au sein de notre famille. Dieu a permis, nous avons toujours désiré depuis notre mariage vivre avec des pauvres et laisser la pauvreté venir nous combler, parce que c'est les pauvres qui nous comblent aussi. Et donc nous vivons avec ces enfants qui sont fortement blessés. Et que de foi, donc nous n'avions qu'une seule chose pour que Dieu puisse agir. Nous n'avions que l'abandon. Nous l'avons vraiment vécu, cet abandon qui fait que Dieu, ça laisse de la place à Dieu. Si nous ne nous abandonnons pas, tant que nous faisons une petite prière pour dire « Seigneur, je te confie ça », mais que nous reprenons les rênes des choses, Dieu ne peut pas agir. Et Dieu agit vraiment très, très puissamment quand nous faisons un véritable acte d'abandon. Jésus, il faut lui dire, je m'abandonne à toi. Je t'abandonne cet enfant. C'est à toi d'y penser. Jésus, je m'abandonne à toi. C'est à toi d'y penser. Et nous utilisons vraiment cet acte d'abandon au quotidien. Et si je vous disais simplement la dernière quinzaine que nous venons de vivre, c'est pas triste non plus. Hein. Nous avons eu un petit-fils qui est handicapé, qui a de l'autisme et qui en même temps n'a pas été diagnostiqué, donc est très très mal dans sa peau et fait des bêtises. Et voilà, j'étais à Paray-Monial au moment que ça s'est produit. Il a fugué et il a fugué en plein Lyon. Et c'était une angoisse mortelle pour sa mère. Et en fait, Dieu a dépêché vraiment un ange. Cet enfant est parti dans les zones sensibles. Il s'est retrouvé avec des tas de bandes de voyous qui lui ont dit « On va t'apprendre à voler maintenant que tu as fugué. » Et un ange est venu d'une bande opposée, je crois, à celle avec laquelle il était, pour lui dire « Mais viens, je vais te parler. Tu sais, n'écoute pas tout ce qu'ils t'ont dit, ces jeunes. N'écoute pas tout ce qu'ils t'ont dit. Moi, j'ai un petit frère qui avait ton âge, 15 ans, qui a fugué comme ça. Il s'est fait violer. Et il est encore marqué profondément aujourd'hui par ça. Il faut que tu retournes chez tes parents. Il faut que tu viennes avec moi maintenant. On va aller à la police et on va chercher tes parents. » Alors que vraiment, on était dans une ville comme Lyon, on a dit, mais là, on n'a pas d'espoir de le retrouver. Il pouvait être pris par une bande et puis pendant des semaines, on aurait vécu cette horrible angoisse qu'a vécu Marie, hein, de la perte d'un enfant. Voilà. Et puis, tant de choses, un de mes fils qui a eu un très grave accident, qui a été plongé dans l'alcool et la drogue pendant des années, qui a fait 3 ans à Tunacolo, avec Sœur Elvira, mais qui est sorti trop tôt, n'a pas voulu écouter non plus Sœur Elvira, est parti trop vite, et s'est retrouvé chez nous au bout d'un an, accidenté par un arbre qui était en train de tronçonner, sous mes yeux, écrasé par cet arbre. Il se retrouve paraplégique avec d'énormes séquelles secondaires qui fait que sa vie est un calvaire. Il y a quelques jours, il m'écrivait, nous signifiait par SMS qu'il voulait se suicider, qu'on n'y était pour rien. Et moi, immédiatement, j'ai pris mon sac et je voulais aller chez lui. Il habite à 5 km de chez nous. Et mon mari m'a dit, non Béatrice, on va aller à l'oratoire et on va poser un acte d'abandon vraiment encore. Il n'y a que ça, Béatrice. Ce n'est pas nous qui pouvons sauver cet enfant. Jésus, je t'abandonne cet enfant. Je te remets cet enfant. C'est à toi d'y penser. Vous savez, dans des moments comme ça, on le dit de manière assez pure. On est allé se coucher et 2 jours après, le lendemain, on reçoit un SMS de ce fils qui nous dit merci les parents. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous pouvez m'aider, ce que votre présence m'aide. On n'avait rien fait. Mais on avait transmis à Jésus. Quand nous, on ne peut pas, il faut demander à Jésus d'agir. Quand la souffrance, quand le, voilà, ça devient abandon, quoi, que ce soit vraiment un abandon. Les fruits de cet abandon, ce sera les fruits de ce don de soi que vous allez faire, que nous allons tous faire, on va s'aider les uns les autres, entrer dans ce don absolu. Eh bien, c'est la communion. Cela va nous mettre, nous établir dans une communion fraternelle. La communion est le fruit du don. Et cette communion a pour nom la fraternité. Et je vais donner la parole à Yves.
Donc, moi, je médite beaucoup actuellement. Donc, cette parole de saint Paul, dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 16 à 18. C'est très facile à retenir cette référence. 4:16 plus 2:18. 2:16-18. Nous ne perdons pas courage. Et même si en nous, l'être extérieur va vers sa ruine, l'être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et nos épreuves dans le moment présent sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. En effet, ce qui se voit est provisoire. On est dans le provisoire. Tandis que ce qui ne se voit pas est éternel. Trois grains de sable par rapport à l'éternité. Ça confirme tout ce que Béatrice vous a dit. J'ai obtenu un tout petit truc, c'est que cette parole est très précieuse pour l'évangélisation. On ne cite pas le nom de Dieu. Dans cette parole, le nom de Dieu n'est pas cité. Et donc, cette parole est écoutable, je veux dire, par toute personne, quelle que soit sa culture.